le mag Société sur Kan, la radio publique israélienne.
Marilyn Smadja, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes la cofondatrice et une militante engagée au sein du mouvement Les Femmes pour la Paix, un mouvement citoyen en Israël qui existe depuis la guerre de Tsouk Etan, bordure protectrice. C'est un mouvement à l'origine de femmes, une initiative de femmes, et qui regroupe aujourd'hui eh bien, des femmes et des hommes. Et surtout, sa particularité, c'est que ce mouvement regroupe des femmes de tous les milieux, de tous les partis politiques, de toutes les tendances et même de toutes les religions. Alors, voilà, vous êtes avec nous en ligne pour parler de deux événements. Vous avez des activités tout au long de l'année. Et là, pour le mois de juillet, il y a deux événements importants qui sont très proches, d'ailleurs, hein, dans le temps, puisqu'il y en a un qui se déroule le 6 juillet prochain et l'autre le 19 juillet prochain. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire et nous expliquer de quoi s'agit-il ?
Alors, d'abord, il faut savoir qu'on est un mouvement de terrain. Donc, on est 38 000 femmes après 2 ans et demi. On est né après Bordure Protectrice. Et en fait, on est tout le temps sur le terrain. Donc, même cette semaine, il y a énormément d'événements. La semaine prochaine, tout le mois de juillet, mois d'août. Et c'est comme ça depuis 2 ans et demi. On n'arrête pas jusqu'à qu'il y ait des accords politiques. Et donc, le 6 juillet, la semaine prochaine, on va marquer le début de la guerre Bordure Protectrice, qui avait commencé donc le 8 juillet en 2014, et on sera dans 135 croisements de tout Israël, donc depuis le sud jusqu'au nord du pays, partout où il y a des routes en Israël, on va nous voir en fait. Et donc avec des panneaux montrant Begin et Sadat, des panneaux montrant notre premier ministre Benjamin Netanyahou et Abu Mazen, et disant que c'est possible. Et justement, on a commencé avec l'arrivée de Trump en tant que président aux États-Unis dans une nouvelle ère où les Israéliens ont beaucoup plus confiance au gouvernement américain et où aussi Abu Mazen a plus confiance en ce qui peut se dérouler justement sous la médiation du gouvernement américain. Et donc il est temps aujourd'hui, dans l'intérêt d'Israël et surtout dans l'intérêt d'Israël et de l'ensemble des citoyens ici, de pouvoir faire avancer, de revenir à la table des négociations et de pouvoir faire avancer cette histoire d'accord politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous l'avez dit, on est un mouvement de femmes et donc une des clés principales pour pouvoir justement réduire les conflits dans le monde, on a de l'expérience précédente, sociale et historique dans ces 100 dernières années, c'est de faire intervenir les femmes sur la base de la résolution 1325 qui dit que quand les femmes sont impliquées directement dans la résolution des conflits et des guerres, il y a plus de chances d'aboutir à des solutions. Et deuxièmement, quand les solutions, elles ont été dans la solution, il y a plus de chances que les solutions tiennent sur le long terme, donc plusieurs années. Et donc, on va être le 19 juillet. On a créé déjà un lobby pour les femmes pour la paix et la sécurité au sein du Parlement israélien. Le 19 juillet, on a une autre action au sein du Parlement israélien où on invite à peu près 10-15 ambassadrices qui vont parler, y compris les ambassadrices qui représentent des pays comme l'Irlande, la Croatie, Bosnie, donc des pays qui ont été en conflit, en guerre. Il y aura aussi l'ambassadrice de France qui va venir. Et ces femmes-là vont nous parler de leur expérience, déjà de résolution de conflits, puisqu'il y a eu des conflits meurtriers qui étaient même certains pires que ce que l'on voit avec le conflit israélo-palestinien. Et donc, elles vont nous faire part de leur expérience et de comment ces conflits se sont résolus et comment les femmes, en étant impliquées dans ces conflits, ont permis d'être une clé très importante à la résolution de ce conflit. Voilà. Donc, deux gros événements.
Alors, j'ai deux questions pour vous. La première question, c'est d'abord, au sein de la Knesset, donc du Parlement israélien, vous, effectivement, donc, vous organisez des rencontres très régulières avec les différents députés de tous les partis. Quelle est l'approche, quelle est la réaction, quelle est la l'accueil que vous recevez. On aimerait savoir vraiment de tous les côtés, c'est-à-dire que ce soit des partis de gauche ou des partis du centre ou de droite, que ce soit des hommes ou des femmes. Décrivez-nous un petit peu l'accueil que vous recevez avec votre mouvement.
Alors d'abord, merci pour la question, parce que c'est vrai qu'on se demande comment un mouvement qui était dit, s'appelle les femmes pour la paix, et le mot paix ces dernières années était vu comme un mot tabou, et comment des femmes donc d'un coup de droite, de centre et de gauche s'unissent et ont un mouvement qui est en fait incroyable. C'est aujourd'hui le mouvement de paix le plus grand qui est sur le terrain en Israël en très très peu de temps, hein, à peine 2 ans et demi. Donc déjà, on n'a rencontré pas que des membres du Parlement, on a rencontré des ministres, et on a rencontré notre premier ministre Netanyahou une fois chez lui à sa résidence, et une fois il n'y a pas très longtemps à la Knesset, au Parlement lui-même. En général, en gros, il y a une appréciation très positive de notre mouvement, parce que on montre en fait une unité au sein des Israéliennes. Les Israéliennes qui habitent dans la périphérie et celles qui habitent au centre, les Israéliennes juives et les Israéliennes arabes. Et donc cette unité touche en général de manière positive les membres de différents partis, et aussi ils comprennent qu'ils ont un électorat très élargi au sein de notre mouvement, parce que puisqu'on n'est pas pour un seul parti, pensez que derrière chaque femme de notre parti, il y a au moins 4-5 personnes qui la soutiennent. C'est-à-dire que si aujourd'hui on voudrait par exemple ouvrir un parti politique des femmes pour la paix et la sécurité en Israël, on aurait facilement 4-5 mandats. Et ça, évidemment, membre.
C'est incroyable, c'est incroyable à imaginer en plus.
Ouais, donc évidemment, c'est pas notre but. Hein. Notre but n'est pas de faire un parti politique actuellement, mais de comprendre qu'il y a une force électorale exponentielle, vraiment qui s'est élargie de manière complètement. Alors ça c'est la première.
Personne ne vous a fermé la porte.
Non, alors personne ne nous a fermé la porte. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quelquefois, on nous dit que nous sommes naïves, que oui, la majorité des Israéliens, effectivement, puisqu'on représente la majorité des Israéliens, et que tous les sondages le montrent ces 10 dernières années, je parle de ces 10 dernières années sous un gouvernement de droite, 60 à 70% des Israéliens, de manière régulière, dans tous les sondages, quel que soit l'organisme qui fait ce sondage, les Israéliens, contrairement à ce qu'on pense en dehors d'Israël, veulent des accords politiques, veulent la paix. Les Israéliens sont un peuple qui veulent la paix. Il n'y a qu'une minorité.
Alors, vouloir la paix, oui, mais croire en la paix.
Alors, on veut la paix, on croit en la paix, mais on ne sait pas avec quel partenaire. Voilà, on ne sait pas comment c'est possible. On ne sait pas quel accord. Or, quelle est la force de notre mouvement ? En plus de cette réunion comme ça de femmes tellement différentes, n'oubliez pas que dans notre mouvement, il y a aussi des femmes qui vivent dans les implantations. Mmh. Et elles rencontrent les femmes palestiniennes régulièrement avec le mouvement. Et les femmes palestiniennes vont dans les implantations. Chose que personne n'aurait pu imaginer il y a 5 ans ou il y a 10 ans avant la création du mouvement. Jamais. Donc une grande force, c'est qu'on ne dit pas aussi quelle est la solution. Parce que nous ne savons pas quelle est la meilleure solution pour Israël. Quand seulement autour de la table des négociations, que notre gouvernement, notre Premier ministre, devra mettre tout en place pour que ces accords soient le plus possible dans l'intérêt d'Israël. Et face à nous, nous avons les Palestiniens qui, de toutes les manières, d'une certaine manière, puisqu'ils doivent se sortir aussi d'une problématique, on voit ce qui se passe à Gaza, c'est terrible, c'est-à-dire sans électricité, une situation très difficile qui est créée aussi par leur propre gouvernement, par leur propre gestion évidemment des choses. Il y a un intérêt, c'est-à-dire notre intérêt israélien va se retrouver face à l'intérêt palestinien. Donc il va y avoir de toutes les manières des concessions faites des deux côtés, mais nous ne savons pas quelles sont les concessions, qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau, par exemple, des frontières, qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau... Nous ne disons pas quelle est la solution. La solution se trouvera quand on sera autour de la table des négociations, et nous souhaitons qu'autour de cette table des négociations, il y ait de plus en plus de femmes. Or, la majorité des partis politiques, pour vous dire aussi par rapport aux ministres et aux membres du Parlement que nous avons rencontrés, comprennent qu'il faut faire intervenir plus de femmes dans les questions sécuritaires et politiques. Alors, il y a une difficulté à ça. Ça, par exemple, c'est une réelle difficulté. Parce qu'au cabinet de sécurité, il n'y a qu'une ministre. Et les femmes ont peu de mots à dire sur les problèmes de sécurité, alors qu'elles s'y comprennent très bien en sécurité, elles vivent la sécurité au quotidien. On ne peut plus faire la différence entre aujourd'hui, on le sait, depuis Bordure Protectrice, encore plus depuis cette guerre que avant-hier, enfin il y a 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, les civils sont complètement impliqués dans la guerre. Et les femmes faisant l'armée en Israël, et les femmes civiles sont complètement impliquées dans la guerre. Donc elles comprennent les problèmes de sécurité, ça nous touche à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau de notre famille, au niveau économique, social, ça nous touche au niveau de la relation arabe et juif au sein d'Israël, ça nous touche au niveau diplomatique avec la communauté internationale. Donc nous ne sommes, nous femmes, épargnées en rien dans les questions sécuritaires. Et donc, il est important de dire aujourd'hui aux femmes israéliennes, impliquez-vous dans le mouvement, joignez-nous, soutenez-nous et surtout soyez actifs parce que vous bâtissez l'avenir de vos filles et de l'ensemble du pays et de l'ensemble des citoyens israéliens pour un meilleur avenir. Nous le bâtissons aujourd'hui, maintenant, dans le présent.
Alors, justement, en matière de paix, vous avez des discussions régulières avec les différents personnages politiques. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis l'élection du nouveau président américain, Donald Trump, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un début de changement? On sait que le président américain veut faire de la paix, de la paix au Moyen-Orient, il en fait son cheval de bataille et qu'il a l'intention d'y arriver. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un peu de changement?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, on a fait une quand Trump est venu en Israël, on a fait une action immense aussi dans le pays où on a fait un panneau en fait humain avec des centaines et des centaines de femmes qui sont venues juives et arabes, où on a marqué avec nos corps en fait, on l'a vu de haut par avion et donc ça a été photographié, on avait marqué Ready for Peace. C'est-à-dire les Israéliens sont prêts pour la paix. Alors, il y a la plus grande tendance des Israéliens. Il faut regarder d'abord le plus important, notre premier ministre et celui donc qui dirige le gouvernement. Le problème israélo-arabe est un problème très complexe, mais un des plus gros problèmes est un problème de confiance. C'est-à-dire que la majorité des Israéliens, y compris aussi les gens qui sont au sein du gouvernement, veulent des accords politiques, mais ne font pas confiance. Et d'ailleurs, de l'autre côté, on ne fait pas confiance non plus du côté palestinien aux Israéliens. Mm-hmm. Et donc, du fait qu'il y ait un médiateur comme Trump, ou par exemple Netanyahou, un très bon contact avec lui, lui fait entièrement confiance, ça aide déjà à régler une partie des problèmes. C'est-à-dire que les choses sont plus positives. On a un autre regard pour aborder les choses et aussi une autre responsabilité, notre obligation. C'est-à-dire qu'on ne peut plus remettre sur l'autre, non, ça ne marche pas, on n'a pas confiance et tout. Non, il y a déjà un médiateur qui change en fait l'équation de cette histoire. Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. Et regardez aussi la position de Mahmoud Abbas. Elle est très intéressante. Après la venue de Trump en Israël, c'est la première fois qu'on entend Mahmoud Abbas dire « Nous n'exigeons pas pour des prêts, pour pouvoir revenir à la table des négociations, des préconditions qui incluront le gel des implantations. » C'est la première fois que les Palestiniens ne réclament pas le gel des implantations. C'est assez incroyable. Hein. Donc oui, il y a quelque chose qui change. D'un autre côté, je peux vous dire aussi qu'une minorité de gens de droite plus extrêmes comme Bennett ont été évidemment très déçus par la position de Trump parce que eux, ils pensaient que quand Trump, et moi je l'avais dit avant, quand Trump a été élu et que je parlais évidemment avec des gens de tous les bords, y compris évidemment avec des gens du foyer juif puisque ce sont nos frères, c'est notre peuple, et on est tous ensemble à devoir discuter et négocier pour faire avancer le pays. Il avait dit, oui, tout va changer avec Trump, il va y avoir l'ambassade à Jérusalem, puis le peuple palestinien n'existe plus, il n'y aura plus de... Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'une des premières choses, c'est exactement ce que vous avez dit, Emmanuel, première chose que Trump dit, en un an et quatre mois, je veux qu'il y ait des accords, quels que soient les accords. Donc, en fait, il parle exactement comme notre mouvement. Mm-hmm, c'est-à-dire, nous ne c'est savons ça. Pas quels accords, mais il va permettre, pousser les Israéliens et les Palestiniens à s'asseoir ensemble. Et d'ailleurs, probablement en septembre, il devrait y avoir une rencontre entre Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Très prochainement, j'entends des deux côtés, des côtés autant israéliens que palestiniens, cette rencontre est en train de se préparer. Il y a son gendre, le gendre de Trump qui est venu récemment avec l'envoyé qui est spécialisé dans les questions de conflit donc au Proche-Orient. Et donc, on voit qu'il y a tout le temps des choses qui avancent, très concrètes, et il faut être pragmatique, en fait. Il faut qu'on arrive maintenant dans une ère beaucoup plus pragmatique, en disant que ce conflit qui dure déjà depuis tellement d'années, qui nous a coûté tellement cher en vie... Je voudrais dire aussi un mot personnel.
Oui.
Aujourd'hui, ce soir, il y a une amie à moi, Sarah Rosenfeld, qui vit dans les implantations, qui est une des femmes les plus aimées en Israël. Porte ouverte... partout, y compris chez notre président Rivlin. Et ce soir, c'est la nuit blanche à Tel Aviv, mais une partie de la population de Tel Aviv a décidé de laisser une place à la commémoration au souvenir de son fils Melachi qui a été assassiné dans un attentat. Notre combat pour les femmes, pour la paix, donc Women Wage Peace, notre combat est une question de vie et de mort. Il faut comprendre qu'il est question chaque fois, chaque mois, chaque année, du cercle des familles endeuillées qui s'agrandit. Et on est tous touchés en Israël. Nous sommes un tout petit pays. Moi, je ne connais pas, je parle aujourd'hui de Sarah Rosenfeld, parce que, évidemment, elle m'est proche. C'est une femme que j'admire et que j'aime, et c'est une amie. Mais je pourrais vous dire qu'au sein de notre mouvement, il y a énormément de femmes qui sont elles-mêmes des femmes de familles endeuillées. Et la chose qu'on souhaite le plus, c'est justement que ce cercle de familles endeuillées ne s'agrandisse pas. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité, tout autant que c'est notre droit de femme d'être complètement impliquée dans les questions politiques et sécuritaires. Je crois qu'on a une responsabilité en tant que femme, même si on n'est pas mère, de s'investir. Absolument. C'est une responsabilité civile qu'il ne faut donner à personne d'autre. Parce que, comme je l'ai dit, toute personne, tout citoyen israélien a le devoir aujourd'hui de créer un avenir meilleur pour les futures générations et que ces futures générations n'aient pas à vivre, que Dieu préserve.
D'autres guerres.
D'autres guerres et d'autres deuils.
Marilyn Smadja, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du mouvement des femmes pour la paix en Israël. Au revoir.
Au revoir, Emmanuel.